me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace.
Help
me find the way. Bring me back to you.
Chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. Les noms de Dieu, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Dieu a un seul nom qu'il veut que nous connaissions tous, et c'est lui que sa parole faite chair est venue nous faire connaître. Nous connaîtrons et invoquerons ce nom tout au long du message d'aujourd'hui. Le nom auquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lisons Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Dieu veut se faire connaître par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est impossible de connaître Dieu sans connaître son nom. La plupart des autres noms de Dieu que nous trouvons dans la Bible décrivent et nous révèlent son caractère, sa nature, ses attributs, sa gloire et sa personne. Énumérons les principaux noms de Dieu, dont voici le premier. Elohim, le Dieu créateur et éternel. Dans Genèse 1, à partir du verset 1, nous lisons « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. » Ceci se passa avant la chute de Satan et avant Genèse 1, verset 2, où nous trouvons les ténèbres, le vide et l'informité que Dieu ne peut créer. Plusieurs milliers d'années après, l'apôtre Jean le confirme par ses paroles. Dans Jean 1, à partir du verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Le deuxième nom de Dieu, Adonai, le Seigneur souverain. Dans Genèse 15, à partir du verset 2, nous lisons, « Abraham répondit, « Adonai, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, Adonai, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Dans Acte 2, à partir du verset 36, nous lisons, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et Apocalypse 17, à partir du verset 14, dit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » Apocalypse 19, à partir du verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Alléluia. Un autre nom de notre Seigneur, c'est El Netzat, l'Éternel notre force. Dans le psaume 46, à partir du verset 1, nous lisons: Elle, Netsa, est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Apocalypse 5, à partir du verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ils adorèrent l'Éternel, notre force, El Netsa. Ensuite, nous avons El Shaddai, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui nous suffit. Dans Genèse 17, à partir du verset 1, nous lisons ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, El Shaddai apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Et dans Colossiens 2, à partir du verset 8, dans le Nouveau Testament, nous lisons: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pourquoi? Parce qu'il est El Shaddai. Ensuite, nous avons Élion, le Seigneur très élevé. Dans le psaume 7, au verset 18, nous lisons: Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut, Élion. Nous avons ensuite Eloah, le Dieu vivant. Dans Josué 3, au verset 10, nous lisons: Josué dit, À ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant, Eloah, est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Périsiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Dans Apocalypse 1, au verset 18, Eloah dit ceci: Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Loué soit Eloah. Et dans Acte 1, à partir du verset 1, nous lisons: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Pourquoi? Parce qu'il est Eloah, le Dieu vivant. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, est aussi Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Dans Exode 15, à partir du verset 26, nous lisons: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit, car je suis Jéhovah Rapha. Et dans le psaume 103, au verset 2, David louait Jéhovah Rapha. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, parce qu'il est Jéhovah Rapha. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Les maladies nous détruisent, elles nous font vieillir. Mais Jéhovah Rapha qui nous guérit de toutes nos maladies est celui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Et dans le psaume 107, à partir du verset 17, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux comme vous et moi à cause de nos péchés. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Heureusement qu'ils ne crièrent pas aux cases secrètes. Heureusement qu'ils ne crièrent pas aux marabouts. Heureusement qu'ils ne crièrent pas aux boules de cristal. Heureusement qu'ils ne crièrent pas aux dieux de leurs ancêtres qui sont des démons. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chère Jésus-Christ. C'est elle qui vient et elle nous guérit. Parce que la parole est le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Rapha. Il envoya sa parole. Il envoya Jésus. Il envoya Christ. Et il les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jéhovah Rapha. Et comment ne pas lire Ésaïe 53 à partir du verset 3. Jéhovah Rapha qui s'est fait homme, il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il en est de même aujourd'hui, même après sa résurrection et son ascension au ciel, même après sa glorification. Il y a encore plusieurs qui le dédaignent, qui ne font aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Il est l'Éternel, le Dieu qui nous guérit. Selon Exode 15, verset 26. Il est le Dieu qui éloigne la maladie du milieu de nous. Selon Exode 23, verset 25 à 26. Loué soit Jéhovah Rapha. Un autre nom, Jéhovah Mekadish, le Seigneur qui nous sanctifie. Dans Exode 31, au verset 13, nous lisons. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis Jéhovah Mekadish, l'Éternel qui vous sanctifie. Il n'y a que Dieu qui peut nous sanctifier. Nous devons apprendre à coopérer avec lui. La Bible nous dit dans Hébreux 13, au verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Dieu veut nous séparer de la foule. Il veut nous séparer du monde. Il veut nous mettre à part pour lui. Il veut nous mettre à part pour ses objectifs et pour sa seule gloire. Parce qu'il est Jéhovah Mekadish, le Seigneur qui nous sanctifie. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 30, la Bible dit que Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nous devons être sanctifiés esprit, corps et âme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, nous sommes des êtres humains et notre être est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne voudrait pas seulement sanctifier notre esprit, mais notre âme et notre corps. Tout notre être doit être sanctifié. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui nous sanctifie. Parce qu'il est Jéhovah Mekadish. Hébreux 10 au verset 10 dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia! C'est Dieu qui nous sanctifie. Les Écritures déclarent que celui qui nous a appelés est fidèle et qu'il fera ce qu'il a promis. Jéhovah Shalom, le Seigneur Dieu, notre paix. Dans Juges 6, au verset 24, nous lisons ceci. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, Jéhovah Shalom. Et dans Ésaïe 26, au verset 3, nous lisons. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Pour ceux qui se confient en toi et qui invoquent ton nom, tu leur assures la paix parce que tu es Jéhovah Shalom. Dans Ésaïe 9, au verset 6, nous lisons ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, parce qu'il est Jéhovah Shalom, l'éternel notre Père. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 2, à partir du verset 13, nous disons ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà la sanctification. Nous sommes sanctifiés, mis à part par le sang de l'agneau. Verset 14. Car il est notre paix. Il est notre Jéhovah Shalom. Il est notre Shalom. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, en établissant shalom, en établissant la prospérité. Il est Jéhovah, notre paix, notre prospérité. Verset 17. Il est venu apporter shalom à vous qui étiez loin, et shalom à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus-Christ, notre shalom, dit dans Jean 14, à partir du verset 27. Je vous laisse shalom. Je vous donne mon shalom. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Dieu est différente de celle du monde. Dans Philippiens 4, à partir du verset 8, nous lisons. Ô reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ceci pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous le comprenons si nous lisons ce passage à partir du verset 6 jusqu'au verset 8 de Philippiens 4. Ensuite, nous avons Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, puissant dans les combats. Dans 1 Samuel 17, au verset 45, David dit aux Philistins, à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de Jéhovah Sabaoth, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il est le roi de gloire, le Dieu de l'armée d'Israël, l'éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Dans le psaume 24, à partir du verset 7, nous lisons « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Jéhovah Sabaoth, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. La Bible nous déclare à plusieurs reprises que nos combats sont ceux de l'Éternel. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 15, nous lisons ceci. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Parce qu'il est Jéhovah Sabaoth. Parce qu'il est le Dieu qui combat à notre place. Nos combats appartiennent à l'Éternel, parce qu'il est Jéhovah Sabaoth. Et dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45, nous lisons, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, Jéhovah Sabaoth te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ô Seigneur, que tous les voisins géographiques d'Israël au Moyen-Orient sachent une fois pour toutes qu'Israël a un Dieu. En dehors du Dieu d'Israël, il n'y en a pas d'autre. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains, parce qu'il est Jéhovah Sabaoth. Chers amis, nous ne pouvons pas vaincre le mal, ni nos ennemis, ni le diable, si Dieu n'est pas avec nous, s'il ne combat pas pour nous, parce qu'il est L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, le Tout-Puissant, il nous fournit ses armes spirituelles pour vaincre. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4, nous lisons: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous lisons: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, parce qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous ne pouvons pas combattre victorieusement avec les armes charnelles, avec les armes du monde ou avec les armes occultes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces armes-là, nous pouvons les lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Jéhovah Rohi, l'Éternel notre berger, notre pasteur. Dans le psaume 23, à partir du verset 1, nous lisons concernant notre berger, le souverain pasteur, le Seigneur Jésus-Christ. David l'avait déjà expérimenté. L'Éternel est mon berger, il est mon rohi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, parce que tu es mon berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Jéhovah Rohi, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes ses brebis parce qu'il est notre pasteur, il est notre souverain berger, il est notre rohi. Il continue au verset 11. Je suis le bon rohi. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas Jéhovah Rohi, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon rohi. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, les enfants de Dieu, les citoyens du royaume, les nés de nouveau, et un seul berger, Jésus-Christ, Jéhovah Rohi. Ensuite, nous avons Jéhovah Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Parce qu'il voit tous nos besoins, il est aussi le seul qui pourvoit. Il ne nous donnera pas ce qui ne nous est pas utile. Jéhovah Jiré, l'Éternel notre pourvoyeur. Dans Genèse 22, au verset 7, nous lisons: alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Jéhovah Jiré se manifestera lui-même. Lui-même donnera l'agneau pour l'holocauste. Verset 12. L'ange dit à Abraham: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans le Nouveau Testament, Paul nous rappelle fortement ceci dans Philippiens 4, à partir du verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et nous connaissons que la richesse de Jéhovah Jireh est infinie. Ses provisions sont infinies. La banque de Jéhovah Jireh ne tombe jamais en faillite. Le système financier de Jéhovah Jireh ne tombe jamais en faillite. Il n'y a jamais de crise économique dans le royaume de Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ensuite, Jéhovah Nissi, le Seigneur, notre bannière. Dans Exode 17, à partir du verset 11, nous lisons ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière, celui qui nous protège. Oh, la bannière de Dieu dans notre vie est son amour. Notre Père Céleste nous aime et il nous recouvre de son amour. Il nous recouvre de sa parole. Oh, merci Seigneur Jésus, Jéhovah Nissi, toi notre bannière. Quand l'ennemi viendra contre nous comme un fleuve, ton esprit s'élèvera parce qu'il est notre bannière et il mettra nos ennemis en fuite. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Nissi. Jéhovah Tchikenu, l'Éternel notre justice. Dans Jérémie 23, à partir du verset 5, nous lisons ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Ce que ses ennemis tentent de détruire aujourd'hui. Ce que ses ennemis tentent de régner aujourd'hui. Parce qu'ils ne croient pas à Jéhovah Tchikenu, au Dieu d'Israël. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Il s'agit de la demeure d'Israël et non de celle de ses voisins ennemis, Antichrist. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Ce germe juste, on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est Jéhovah Tchikenu qui rend la justice à Israël en lui donnant la victoire éternelle. Israël n'a pas à faire de la propagande parce que le monde n'aimera jamais Israël. Pour aimer Israël, nous devons naître de nouveau. Nous devons croire à Jéhovah Tchikenu qui est le Dieu d'Israël. Nous devons croire à la parole de Dieu. Et ainsi, l'Esprit de Dieu va nous faire aimer Israël, va nous faire bénir Israël. Tous ceux qui bénissent Israël sont bénis. Tous ceux qui le haïssent et qui le maudissent sont maudits. Parole du seul vrai Dieu. Tous les autres dieux ne sont que des inventions. Le seul vrai Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Quand nous invoquons Jésus, c'est en réalité le germe juste. L'Éternel, notre justice, que nous invoquons, Jéhovah Tchikenu. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 30, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Il est notre Jéhovah Tchikenu. Comment pouvons-nous donc rechercher la justice si nous rejetons le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, notre justice? L'apôtre Paul nous dit dans la Bible que le monde, ayant rejeté la justice de Dieu, a établi sa propre justice parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à la justice de Dieu. C'est pour cela que nous avons la guerre au Moyen-Orient et partout dans le monde. Parce que les hommes ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Tchikenu. les grandes organisations internationales échouent partout. Ils sont en train de dérouler le tapis rouge à l'antichrist qui sera bientôt intronisé. Juste parce que même les organisations internationales qui disent pourtant du bout des lèvres qu'elles veulent apporter la paix, ces organisations ont rejeté Jéhovah Tchikenou, l'Éternel, notre justice. Comment peuvent-ils donc apporter la justice s'ils rejettent la justice elle-même? Le Seigneur Jésus-Christ est notre justice. Car lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, vous et moi, nous soyons justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Si nous voulons que la justice, la vraie, se manifeste au Moyen-Orient, entre Israël et ses ennemis, acceptons tous la parole de Dieu. Soumettons-nous tous à Jéhovah Tchikenou, le Dieu d'Israël. Serons-nous assez humbles pour nous prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ seul? Dans Hébreux 7, à partir du verset 1, nous lisons ceci. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Notre Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ, est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, prince de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah Tchikenou.
Je m'appelle Afana Abanga Germaine.
Je m'appelle Moussambé Abanga Estelle Agathe.
En ton nom, Sauveur de grâce, rassemblés en ce saint lieu, nous cherchons ta sainte face, demandant tes dons, grand Dieu, de ta plénitude immense. Envoie-nous un grand réveil, des torrents de délivrance du péché et du sommeil. Que les portes des écluses montent, nous prions, Seigneur. Que l'Esprit nous tous inonde et nous rend plus que vainqueurs. Que les portes des écluses s'ouvrent et ton grand salut se répande sur l'Église, l'inondant en ton esprit. Que les morts et infidèles se lèvent à ton appel, recevant la vie nouvelle par s'offrant sur ton autel. Que les portes des écluses montent, nous prions, Seigneur. Que l'Esprit nous tous inonde et nous rend plus que vainqueurs. Nous croyons bientôt il viendra le réveil que tu promis. À nos cris, tu nous répondras par la pluie de ton esprit. Ta gloire, ta puissance, en torrent vaste infini, se répandront en clémence, nous donnant ta sainte vie. Que les portes des écluses montent, nous prions, Seigneur. Que l'Esprit nous tous inonde et nous rend plus que vainqueurs.
Je suis Abanga Onana. Les noms de Dieu, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons Jéhovah Shammah, l'Éternel présent à nos côtés, l'Éternel notre compagnon. C'est lui qui dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dans Exode 40, Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle de Dieu parce que l'Éternel Dieu était présent. Il est Jéhovah Shammah. Il est omniprésent. Il est partout au même moment. Qui, comme le Seigneur Jésus-Christ, peut être partout au même moment? Dans Josué 1, il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Dans Hébreux 13, au verset 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi? Parce qu'il est Jéhovah Shammah, l'Éternel présent à nos côtés. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il nous dit, en nous envoyant en tant que ses disciples, comme il a fait des premiers disciples il y a de cela 2000 ans environ, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi Jéhovah Shammah, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons Emmanuel, l'Éternel Dieu, avec nous. Dans Matthieu 1, à partir du verset 20, nous lisons, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Esaïe. « Voici la Vierge sera enceinte. » Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, Jéhovah Emmanuel. Parlons maintenant du nom au-dessus de tous les noms, le nom de notre Dieu, le nom auquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que nous ne chasserons jamais les démons au nom d'Emmanuel, ni au nom de Jéhovah Nissi, ni au nom de Jéhovah Shammah, ni au nom de El Sabaoth. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus-Christ. Le nom que la parole de Dieu a pris quand elle s'est faite chair. Le nom au-dessus de tout le nom est celui que nous allons voir maintenant. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, nous lisons ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Il y a plusieurs personnes qui s'élèvent aujourd'hui, même dans l'église, pour dire qu'il ne faut pas prier au nom de Jésus, ni de prêcher au nom de Jésus. Déjà, au temps de Jésus, les ancêtres spirituels de ceux-ci menaçaient déjà les disciples. Lisons dans Actes chapitre 4, à partir du verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Gloire au Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre, que plusieurs parmi nous prétendent être des successeurs aujourd'hui, déclare pourtant ceci dans Actes chapitre 4 à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, vous qui combattez le nom de Jésus, vous qui interdisez aux chrétiens de prier au nom de leur Dieu, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alléluia! Certains disent même que le nom Jésus est un nom grec tiré du nom Zeus. Voilà un mensonge enfantin, banal, mais un très gros mensonge et très dangereux. Le nom Jésus est l'appellation du nom hébreu Josué, qui lui-même est une contraction du nom Yeshua. Il signifie Jéhovah qui secourt, qui aide, ou encore le secours de Jéhovah. Il signifie aussi l'Éternel est mon salut. Jésus est le sauveur du monde. Dans Ésaïe 35, Dieu annonçait déjà que il viendra lui-même. Il n'enverra pas un ange, ni un saint. Il viendra lui-même et il sauvera le monde. Parce qu'il est l'Éternel, notre sauveur. Dans Matthieu 1, à partir du verset 20, nous lisons. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans Luc 2, au verset 6, nous lisons. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Alléluia! Et Marie s'écria dans Luc 1, à partir du verset 46. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Oh, la vraie Marie, celle qui est notre sœur en Christ, adorait le Seigneur Jésus-Christ, son Sauveur. Que tous ceux qui m'écoutent suivent ce bon exemple, qu'ils imitent Marie dans toutes les voies où elle-même imite le Seigneur Jésus-Christ. Adorons le Seigneur Jésus-Christ seul, louons-le seul, parce que lui seul est notre Sauveur et notre Seigneur, comme il a été le Sauveur de Marie. Dans Luc 2, à partir du verset 25, nous lisons ceci. Parlant de Jésus, le Sauveur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit Saint. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est par la parole de Dieu qui s'est faite chère que nous connaissons enfin le nom de Dieu. Si la parole de Dieu ne venait pas chez les siens, nous n'aurions pas connu le nom de Dieu. Oui, Jean 17, à partir du verset 1. Notre Sauveur, notre Seigneur nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Une fois de plus, que ce message retentissent dans tout le Moyen-Orient, dans toutes les chancelleries du monde entier, dans tous les secrétariats généraux des organisations internationales dans le monde. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. En dehors du Dieu d'Israël, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Afin qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Au commencement, avant même la fondation du monde et avant sa conception et sa naissance, la deuxième personne de la Trinité ne s'appelait pas Jésus. Mais elle s'appelait la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis vint ce temps où le Père, le Fils et le Saint-Esprit tinrent conseil et décidèrent de visiter la terre sous la forme humaine. Hébreux 10, à partir du verset 5 dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et puis vint ce jour où l'ange Gabriel annonça à Joseph, le fiancé de Marie, dans Matthieu 1, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Isaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia! Maintenant que Jésus, mon Sauveur, est venu à moi dans ce monde où j'étais seul, errant, perdu, sans secours, je peux désormais dire triomphant. D'après Hébreux 13, au verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Jésus est mon secours. Si Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, connaissons-nous Dieu comme il est en réalité? Ce n'est pas par nos cinq sens que nous pouvons connaître Christ aujourd'hui, mais par notre esprit. Christ est esprit, et nous sommes chacun de nous un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. C'est par notre esprit humain que nous connaissons que Dieu est réel. Notre corps ne peut pas connaître Dieu, ni lui obéir, ni le louer, ni l'adorer, ni entendre sa voix. Notre corps ne peut pas contacter le monde physique à travers ses cinq sens. Sans lui, nous ne pouvons pas contacter les choses physiques. Les choses physiques nous sont réelles parce que nous avons un corps physique. Notre âme, la raison, l'intellect et les émotions ne peuvent pas comprendre Dieu. Mais avec notre âme, nous contactons le monde intellectuel, le monde de la pensée. Notre corps ne peut pas contacter le monde intellectuel. Il ne peut pas raisonner, ni penser, ni imaginer. Il nous faut une conscience pour cela. Dieu ne vient habiter ni dans notre corps, ni dans notre âme. C'est pour cela que raisonner, réfléchir ou chercher à comprendre Dieu par la sagesse humaine ne marche pas et ne marchera jamais. Nous ne pouvons pas appréhender Dieu avec notre raison, tout comme nous ne pouvons pas toucher Dieu avec notre corps physique. Il n'y a qu'une seule voie pour contacter et communier avec Dieu. Il s'agit de notre esprit. Nous ne pouvons contacter le monde spirituel, divin ou démoniaque qu'avec notre esprit. Nous ne pouvons parler de la réalité divine que par notre esprit. Nous pouvons entraîner notre corps physique et faire des performances anatomiques et sportives extraordinaires. Avec notre corps, nous pouvons courir très vite et pendant longtemps. Nous pouvons opérer des exploits sportifs et nous pouvons porter de très lourdes charges. Sans entraîner notre corps, nous ne pouvons pas faire de telles performances. De la même manière, nous dépensons de très fortes sommes d'argent pour entraîner notre âme à travers des études, la lecture, la culture générale, le tourisme. En acquérant plus de connaissances, nous sommes devenus des géants intellectuels. Il y a de nos jours un très grand nombre de géants intellectuels dans le monde. Mais l'enfer n'a pas peur de tout ce beau monde. De la même manière, il y a ceux qui entraînent leur esprit pour devenir des géants spirituels. Ça, l'enfer a peur de cela. En tant que chrétiens, nous devons entraîner notre esprit comme les autres entraînent leur âme et leur corps. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16, nous lisons. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Lui avons-nous donné la permission de naître dans notre cœur pendant qu'aucune place n'est trouvée pour lui dans le monde? Lui avez-vous déjà ouvert la porte de votre cœur, de votre vie, de votre ministère, de votre parti politique, de vos coutumes et traditions tribales pour qu'il y règne, légifère, censure et juge? Lui avez-vous déjà ouvert les portes de votre mouvement d'autodétermination? Lui avez-vous déjà ouvert les portes de votre mouvement indépendantiste? Ésaïe 33, verset 22 dit, « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui possède tous les pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, même le quatrième pouvoir, celui de la presse. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui le possède, parce que sa parole seule est la vérité. Si nous voulons connaître la vérité, lisons la parole de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais la ligne éditoriale du Seigneur Jésus-Christ ne passera point, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus veut être cru, accepté, reçu, loué, adoré et servi totalement et en entier dans tous ses attributs que révèlent ces différents noms que nous avons parcourus dans ce message. Dieu veut briller dans tous les angles de nos vies. Il veut être dans nos vies tout ce que ces différents noms signifient. Avant de dire que nous avons cru en lui ou que nous l'avons reçu dans notre vie, nous devons d'abord savoir qui il est pleinement. Colossiens 2, verset 9 dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Et en lui, nous avons tout pleinement. Cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, notre Père éternel, notre Seigneur et Sauveur est Elohim, le Créateur éternel. Il est Adonai, le Seigneur souverain. Il est El Elyon, le Seigneur Dieu très élevé. Il est El Shaddai, le Seigneur tout-puissant. Il est notre Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel notre pourvoyeur. Car nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Et dans l'esprit du psaume 138 au verset 2, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Alléluia. Chers amis, Dieu nous interdit de prendre son nom en vain. Désormais, avant d'invoquer son nom, je vous conseille de le recevoir d'abord dans votre vie en tant que votre sauveur et votre Seigneur personnel. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne vivons pas une vie qui plaît à Dieu, si nous ne voulons pas pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, si nous ne voulons pas abandonner le péché, si nous ne voulons pas abandonner l'idolâtrie, si nous ne voulons pas abandonner le syncrétisme et l'écuménisme religieux, si nous ne voulons pas abandonner l'ésotérisme, l'homosexualité, l'inculturation, la fornication et l'adultère, si nous ne voulons pas demeurer dans la Bible, la parole de Dieu, nous prenons son nom en vain chaque fois que nous l'invoquons dans nos activités religieuses, en privé ou en public. Nous devons connaître les noms de notre Dieu pour bien connaître notre Père. Et si nous ne connaissons pas le nom au-dessus de tous les noms, si nous ne nous réfugions pas dans ce nom qui est une tour forte, si nous ne croyons pas en ce nom et ne recevons pas celui qui le porte dans notre vie comme Sauveur et Seigneur personnel, nous ne pouvons ni connaître, ni comprendre, ni croire à ces autres noms, ni cesser de prendre son nom en vain. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 9 dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Car celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, le nom Jésus. Chers amis, si vous voulez vous joindre à moi pour cesser de prendre le nom de Dieu en vain, je vous invite à prier avec moi. Quel que soit l'endroit où vous êtes, baissez votre tête et dites ceci. Père éternel, je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas. Et je ne te connaissais pas parce que j'avais rejeté ton Fils unique que tu as envoyé. Lui seul par qui nous pouvons te connaître. Depuis ma tendre enfance jusqu'à présent, j'avais rejeté ton nom et je ne connaissais pas ton nom. Et ainsi, j'ai erré dans le monde. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais à travers ce message que je viens d'écouter, tu m'as saisi. Tu m'as convaincu de péché, de justice et de jugement par ton Esprit Saint. Je me prosterne au pied de la croix et j'invoque ta miséricorde. Parce que je crois de tout mon cœur tout ce que la Bible dit de toi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde pour s'offrir en sacrifice afin de me sauver. Enterré, je crois qu'il a vaincu la mort en ressuscitant pour me justifier. Oui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur. Sois désormais mon sauveur et mon Seigneur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Et donne-moi à partir d'aujourd'hui de racheter le temps. Donne-moi par la puissance de ton esprit de renoncer désormais à moi-même, de porter ma croix et de te suivre tous les jours de ma vie. Je me réfugie dans ton nom, le nom Jésus, qui est une tour forte pour moi. Moi et ma maison, moi et ma famille, moi et tous ceux qui croiront à toi à travers mon ministère, nous nous réfugions dans ton nom qui est désormais pour nous une tour très forte. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, quelle joie au ciel pour cette décision que vous venez de prendre. Désormais, faites confiance au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Demeurez dans sa parole, quelles que soient les situations que vous traversez, et vous connaîtrez certainement la vérité qui vous affranchira. Il ne vous délaissera jamais, il ne vous abandonnera jamais, comme il l'a promis. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je suis Abanga Onana. Avant de vous quitter, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il soit l'ennemi de vos ennemis. À partir d'aujourd'hui, qu'il soit votre justice. Qu'il soit celui qui combat vos combats. Qu'il réprime Satan dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'il est Jéhovah Rapha qui a guéri toutes vos maladies il y a de cela 2000 ans. Que cette guérison se manifeste dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Si nous ne nous rencontrons pas dans ce monde, nous nous verrons bientôt au son de la trompette, quand il reviendra nous chercher, afin que là où il est, que nous deux soyons aussi. En attendant, cherchez une église où la Bible, la parole de Dieu est la seule autorité. Soyez membre de cette église. Si vous n'avez pas de Bible, trouvez-en une et chaque jour, lisez votre Bible. Étudiez-la dans un esprit de prière et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses si vous voulez mettre la parole que vous lisez en pratique. Une fois de plus, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Close to you.